Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Philippe Osnay, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, aumônier et écoutant de l'association Osez en parler, expert sur le site c'estmavie.tv et chroniqueur sur le site pigeonfuté.com. Voilà, il exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Pasteur Philippe Osnay, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Voilà.
Et j'en profite, puisque c'est la première fois que je vous vois.
Mais oui.
Cette année, eh bien pour vous souhaiter une bonne et sainte, heureuse année, ainsi qu'à nos auditeurs et auditrices.
Et à vous également, et à votre,
merci,
dans votre ministère, qu'il soit béni. Alors, Pasteur Philippe Osnay, donc, une année nouvelle, c'est une page blanche devant nous. Où vont s'écrire les événements de nos vies jour après jour, les événements, ceux qui sont, ceux de nos communautés aussi, de communautés humaines. Et ce soir, nous nous posons la question, face à des situations qui paraissent sans issue, peut-on tout recommencer un jour?
Oui, c'est une question que certains se posent, et surtout les personnes qui sont au bout du rouleau, qui ont tout essayé, oui, y compris la prière en tant que chrétien, y compris l'aide d'accompagnateur, oui, d'accompagnatrice. Et puis, il faut admettre que...
Il y a des moments où on se sent complètement impuissant, rien ne bouge.
On reste à terre, chaos. Donc j'ai pensé que nous avons pensé, donc, puisque nous avons choisi ensemble ce thème,
oui.
Nous avons pensé que donc que cela pourrait peut-être aider certains parmi nous d'en parler, mais cache.
Bien sûr.
Parler des problèmes du terrain, bien sûr. Il y a deux manières d'en parler de ce thème, soit d'une manière cérébrale.
Oui.
Soit
sur le terrain, concrètement,
d'exemples.
Oui.
Et c'est ça qui nous intéresse finalement.
Bah oui, parce que c'est ça qui est vivant et qui peut nous aider. Autrement, le reste...
Le reste, on peut acheter un bon livre sur chaque sujet qu'on traite dans les émissions et ça suffira. Donc on va en parler. Peut-on tout recommencer un jour?
Enfin, le titre est évocateur.
Oui, c'est très parlant. C'est très parlant. Moi, j'aurais envie de dire, comme introduction, que Dieu est le Dieu de l'impossible.
Mais oui, rien n'est impossible à Dieu.
Et même si dans la prière, même si dans notre vie spirituelle, nous avons expérimenté des échecs, ça ne veut pas dire que Dieu, lui, est dans l'échec.
Bien sûr.
Il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne comprendrons pas. Quand on lit les évangiles, les actes des apôtres, c'est assez désespérant quelquefois, les apôtres qui sont jetés en prison, Pierre qui est jeté en prison, certains ont été décapités. Il y a des événements difficiles, l'apôtre Paul a été battu, laissé pour mort, Jean-Baptiste a été décapité.
C'est violent, il y a beaucoup de violence.
Oui, Jésus ne l'a même pas visité dans sa prison. Enfin, ce sont des questions sans réponse. Il y aura toujours dans nos vies des questions sans réponse. Il y en aura toujours.
Bien sûr.
Pourquoi? Eh bien parce que c'est cela qui nous permet justement de nous abandonner. Et Dieu ne dit pas tout. Et heureusement qu'il ne dit pas tout. Alors, ce qui compte, c'est la foi dans ce cas-là, mais une foi aveugle.
Ah oui, oui, complètement, parce que et dans un combat, parce que il y a une partie de notre nature. Enfin, il y a tout un travail qui doit s'élaborer, qui s'élabore si vraiment on y collabore et qu'on y met tout son tout soi-même, tout ce qu'on peut mettre.
Toutes ses tripes.
Oui.
Et c'est pas facile par moment parce que nos raisonnements sont là pour que ça mouline. Alors on peut passer des heures comme cela à réfléchir, mais pourquoi ceci, pourquoi il n'y a pas eu ça, pourquoi cet échec.
C'est stérile.
Alors voilà, il y a un moment où il faut dire stop. Stop à cette machine infernale. Je m'abandonne. Point final. Je ne comprends rien. J'aurais même sujet à me révolter quand je vois ce qui se passe. Mais j'accepte de ne pas comprendre et de continuer à cheminer par la foi.
Oui.
C'est comme quelqu'un qui a mal aux pieds et qui doit continuer à marcher sur des cailloux.
Eh oui.
Eh bien, il y a un moment donné où il ne faut plus qu'il se concentre sur sa douleur, mais sur le parcours qu'il faut faire quand même. Quand même. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et Jésus l'a dit, les apôtres également, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérera jusqu'à la fin. On peut persévérer jusqu'à la moitié.
Ben oui.
Mais il est dit de persévérer jusqu'à la fin. Et c'est là où une formation nous attend. Puisque cette vie, Chantal, et on en a souvent discuté, cette vie sur la terre, c'est une école.
Bien sûr, oui.
Nous sommes dans notre résidence secondaire ici.
Pas toujours confortable, mais secondaire quand même, oui.
Il y a des
vrai sens du terme.
Il y a des pièces dont on ouvre les portes, puis là, c'est l'épreuve.
Oui.
Et voilà. Notre résidence principale, elle est dans le ciel.
Oui.
Et un apôtre dira, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ ou en Christ. Assis dans les lieux célestes.
Dès ici-bas. Dans l'épreuve.
C'est pas que nous le serons assis, non. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors, c'est la victoire, quand on est au bout du bout du rouleau, la victoire, c'est de continuer à y aller quand même. Je continue, je ne sens rien, je ne vois rien, je n'entends rien, tout est contraire, mais j'y vais quand même parce que je sais, et c'est un fait, je sais que c'est le bon chemin. Voilà.
Ouais. Et il y a une parole de Saint Silouane, hein, le saint dans l'orthodoxie, qui aide beaucoup, parce qu'il a vécu évidemment comme tous les saints, mais les épreuves parties très, très rudes. Et il a eu cette parole du Christ, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Et ça, paradoxalement, il l'a expérimenté, mais lorsqu'on le vit, on voit étonnamment qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on ne peut pas tomber au plus bas qu'en tenant volontairement son esprit en enfer, dans l'enfer que l'on vit, sans désespérer, et parce que là, à ce moment-là, la force du Christ monte en nous.
C'est ça. Alors, il peut y avoir un délai.
Oui, bien sûr, c'est pas forcément immédiat.
Le titre de notre émission, c'est « Peut-on recommencer un jour ?»
Oui.
Alors, il peut y avoir un délai. Par exemple, Jésus est ressuscité le troisième jour. Il y a eu un délai. Mmh. Dans toute la Bible, on voit que le peuple a dû... Par exemple, le peuple a été en Égypte 430 ans, en captivité en Égypte.
430 ans, oui, en captivité.
Un délai de 430 ans.
Des générations.
Quand j'y pense, moi, ça me fait peur. Je veux dire...
1000 ans, c'est comme un jour, oui.
Oui, mais quand même...
Pas pour
je
nous,
me dis, mais si j'avais
nous,
été dans ce peuple, ouais. Et puis ils sont morts, je veux
y a
dire,
de quoi
430 ans, il y a
dire...
plusieurs générations, ouais. Là. Etc, etc. Après la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge a été extraordinaire, miraculeuse.
Ouais, oui.
Puis la mer s'est refermée sur les ennemis, et puis pip, hurra. Mais oui, mais
après,
que dit Dieu? Eh bien, Dieu dit de prendre par le désert. Le chemin le plus long. Il y avait le chemin le plus court pour aller en terre promise et le chemin le plus long. Et Dieu a dit, c'est le chemin le plus long. Pourquoi ? Eh bien parce que le chemin le plus court était parsemé d'ennemis tellement faramineux, tellement puissants, que le peuple, s'il avait pris ce chemin court...
Était exterminé. Il passait la mer Rouge, mais après il passait pas plus loin.
Voilà. Et donc Moïse a conduit le peuple dans le désert. dans le désert. Et ce peuple s'est mis à murmurer sans cesse. Il n'était jamais content.
Ah oui.
On en avait fait une ou deux émissions, je me souviens, ensemble, Chantal. Et il a murmuré, et on n'a pas à manger, et on n'a pas à boire, et on est fatigué, et on était mieux en Égypte. On aurait dû y rester. Allez, et nommons un autre chef et retournons en Égypte.
C'était vraiment, oui, c'était quand même décourageant pour Moïse, le pauvre. Hein.
C'était décourageant. Alors, Moïse, lui, avait vécu quand même 40 ans dans le désert.
Mais oui.
Hein, il a commencé son ministère, il avait 80 ans. Mmh. Et quand il fait sortir le peuple d'Égypte,
oui.
Donc il a 80 ans. D'ailleurs,
on le représente toujours avec une patriarche
blanche,
oui.
Voilà, un vieil homme. Ben, ce vieil homme avait l'expérience de l'attente, où on ne voit rien. Et pendant 40 ans, qu'a fait Moïse? Est-ce qu'il a prêché? Non. Est-ce qu'il a fait des expériences tous les jours, toutes les semaines avec Dieu? Non. Il y a eu le buisson ardent, il y a eu plein de choses formidables, mais relativement peu d'événements, il faut le dire. Et c'est dans cette attente si difficile, où on ne voit rien, où on se dit même je ne sers plus à rien, et il ne m'arrivera plus rien de bon, c'est dans ce désert intérieur,
oui.
Moïse l'a vécu à l'extérieur et à l'intérieur de lui,
bien sûr, oui.
C'est dans ce désert qu'ensuite Dieu va se révéler et va choisir le chef, le libérateur du peuple. Alors, quand on est désespéré, quand plus rien ne va, quand tout traîne, quand ça prend des longueurs, c'est là qu'il faut serrer les dents et continuer à marcher sur le bon chemin,
oui.
Malgré que ça soit un chemin horrible. Voilà.
Oui.
Donc on a situé au début de cette émission, on a situé les choses.
Les choses, elles sont claires. Voilà. Peut-on tout recommencer un jour quand rien ne va, et que on est dans des situations en impasse?
C'est ça, et on a tout essayé,
oui.
On a tout essayé, et rien ne marche. Et même la prière, il faut reconnaître quelquefois on prie pendant des années, et on n'a pas de réponse, on n'a pas d'exaucement. C'est comme ça.
Oui.
Ça ne veut pas dire que Dieu est sourd, que Dieu n'entend pas, et que Dieu ne veut pas agir.
C'est peut-être pas le moment.
Alors voilà, il y a des choses là qu'on ne domine plus, mais si Dieu qui est bon, ça a été dit fin décembre,
oui.
Début janvier par le pape François d'ailleurs.
Oui,
hein.
Oui.
Dieu est bon. Je dirais comme Dieu est bon, il ne peut que faire des choses bonnes pour nos vies. Mais nous, lorsque nous les regardons de notre côté à nous,
oui.
Elles sont exécrables.
Eh oui, on se demande, c'est ça. Et on suit Dieu et au contraire, on a l'impression que les événements sont complètement contraires, alors que certains suivent d'autres sentiers et apparemment les choses semblent leur sourire davantage.
Et on a même l'impression que Dieu nous maltraite.
Mais c'est ce que disait Thérèse d'Avila déjà. Mmh. Seigneur, quand on voit comment tu traites tes amis, c'est pas étonnant que t'en aies si peu.
Non, mais
avec son franc-parler, c'est vrai.
Oui, et c'est vrai que dans certaines vies, il semblerait que Dieu est dur.
Ouais, avec ses amis.
Que Dieu refuse la facilité. Et il semblerait qu'il plonge certaines parmi nous dans des labyrinthes. Hein, prenons l'image des labyrinthes. Hein, des labyrinthes où on tourne en rond et on est dans le noir. Et c'est la catastrophe. Et en plus, dans un labyrinthe, on ne peut rien faire.
Oui.
Et il y a des temps d'immobilisation comme ça. Ça peut être par la maladie, ça peut être par différentes épreuves qui nous accaparent, et qui nous empêchent d'être disponibles totalement pour Dieu. Il y a des temps comme cela qui sont là pour nous fortifier.
Il ne faut pas s'agiter dans ces cas-là.
Non, il faut rester dans l'attente sereine, priante. Le danger, c'est la révolte. Alors, quand ça se produit, on demande pardon à Dieu. Hein.
Oui.
Okay,
pardon, Seigneur.
Le danger, c'est le péché aussi. C'est le péché. Parce que quand on va pas bien et quand il nous semble que Dieu nous a trahis, voire abandonnés, on a envie de pécher. La souffrance nous...
On est tenté, hein, il y a tentation.
Nous,
hein,
okay. nous prédispose à commettre des péchés. Alors, il y a la tentation, mais il y a le fait de céder à la tentation. Mmh. Il peut arriver qu'on cède à la tentation dans des moments aussi difficiles. Il faut bien savoir que ce n'est pas ce péché que nous commettons qui va, je fais un jeu de mots, nous empêcher d'être bénis par Dieu. Malgré ce péché, et on le voit dans le désert, ils ont péché considérablement. Alors, ça a quelquefois freiné et retardé l'œuvre de Dieu, mais Dieu a accompli quand même son œuvre. Et donc, le péché, j'entends quelquefois des chrétiens me dire, mais je suis dans une telle situation de péché, pasteur, que Dieu ne peut pas me bénir. Alors je leur dis non, vous vous trompez complètement. Même si votre péché est grand, Dieu est plus grand que votre péché, et c'est vous qui l'aime. C'est pas votre péché, c'est vous qui l'aime. Et il n'abandonne pas cet amour.
Oui.
Donc continuez à croire dans l'amour de Dieu, et confessez votre péché à Dieu. Et aux hommes, afin que vous soyez guéris, hein, dira l'apôtre. Il faut confesser le péché. Et alors, il y en a qui me disent aussi, on va peut-être en parler dans un instant, je crois que peut-être on va écouter...
Mais pour nous remonter le moral, si on veut dire, on va écouter l'Alléluia du Messie de Handel. Hein, avec ça, vous voyez, on voit la victoire
par exemple.
Par exemple.
Radio Notre-Dame.
c'est la réponse fulgurante à cette... voilà, peut-on tout recommencer un jour, hein, c'est le thème de notre émission ce soir et nous évoquons...
Ça doit être incroyable d'être dans la salle où se réunissent ces chanteurs-là qu'on vient d'entendre, de voir l'orchestre, les instruments...
L'enthousiasme.
Mais sur Internet, d'ailleurs, on peut voir des choses comme ça.
Hein. Bien sûr.
Une fois, je crois, ils ont réuni 5000 chanteurs dans un stade. Et avec je sais pas combien de musiciens. Et c'est filmé. Et on peut voir ça. C'est des petits films qui durent 10-15 minutes.
Alors ça, c'est une sorte, c'est une prière. Hein,
c'est formidable.
Ouais, qui monte vers le ciel, qui rejaillit sur le monde d'une façon qui fait du bien.
Ah oui, mais beaucoup de ces musiciens d'autrefois étaient chrétiens d'ailleurs.
Bien sûr.
Et là, ils écrivaient et leur musique était l'expression de leur vécu intérieur.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'on peut ressentir, par exemple, dans l'écoute de ce qu'on vient d'entendre, on ressent quelque chose. Il y a quelque chose, même si on comprend pas les paroles.
Ça vient de plus profond, hein.
C'est profond, c'est extraordinaire. On parlait du péché, Chantal, juste avant.
C'est juste les abîmes, ça vient de profondeur.
Quand on vit en état de péché, on aurait tendance à penser que Dieu ne veut plus de nous, que c'est fini. Alors, c'est complètement faux. Et c'est là où Satan peut nous duper et nous berner. Il y a nous et il y a notre péché. Dieu fait la différence entre les deux. Hein? Et Dieu nous aime. Il n'aime pas notre péché. Et il a prouvé cet amour du pécheur en ne le tuant pas. Lorsqu'il y a eu donc la chute au jardin, dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève, c'est Ève d'abord et ensuite Adam, il n'a pas fait mieux d'ailleurs, qui ont décidé de se séparer de Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu avait sorti un gros pistolet mitrailleur?
Non, pas du tout.
Et puis assassiner Adam et Ève en disant vous allez tous saccager, allez vous faire voir.
Au contraire, il leur met des vêtements de peau.
Et
pour les protéger.
On va pas tout résumer jusqu'à maintenant, mais on voit que Dieu n'a pas cessé de multiplier ses actes de bonté envers des pécheurs.
Et oui.
Et le péché le plus grave, certains disent le péché mortel, c'est tuer quelqu'un. Non, le péché le plus grave, c'est d'être séparé de Dieu et de se complaire dans cette séparation de Dieu, de ne pas se mettre à la recherche de Dieu, de se laisser vivre comme ça sans Dieu. Oh ben, il existe, il n'existe pas, je m'en fiche. Mais là, tu es en état de péché grave et c'est ça qui fait peur en ce moment dans ce monde. C'est cette indifférence qu'il y a quelquefois envers Dieu et c'est vrai qu'on se dit, mais il y en a, ils vont droit au mur, ils foncent la tête droit dans le mur à cause de cela. Alors, on voit dans toute l'histoire biblique que le péché, certes, empêche l'homme d'hériter de certaines bénédictions, c'est vrai, l'homme se prive de certaines grâces, mais le péché ne nous sépare pas de Dieu, si ce n'est le péché le plus grave qui est le fait d'avoir décidé de se séparer de Dieu
là, c'est vraiment...
et de rester dedans.
Là, c'est un choix libre, un choix de déterminer
dans Mais négatif. Tous les autres péchés ne sont pas une excuse pour nous pour dire je vis tellement dans le péché que je veux même pas prier, je veux même pas aller à la messe ou au culte, je veux même pas rejoindre une église, fréquenter les chrétiens parce que j'ai une vie dissolue. OK, tu as une vie dissolue, mais parmi les plus grands saints, parmi les gens qui ont fait le plus de bien sur cette terre, qui Dieu a-t-il choisi?
Ben oui, on voit saint Augustin, il a eu une vie
complètement dissolue.
Charles de Foucault, bien saint.
Alors le fait d'être dans le péché ne doit pas nous faire penser que je ne peux pas recommencer. Voilà, je ne peux. Faut pas qu'on tombe dans le pessimisme. Je suis foutu, c'est fini, je pourrai plus recommencer, c'est un point de non-retour. Non, ça n'existe pas. L'apôtre Paul était un tueur de chrétiens, hein, avant de devenir l'apôtre Paul. C'était un homme croyant, juif, quelqu'un de vraiment qui aimait tellement Dieu qu'il pensait rendre un culte à Dieu en zigouillant les chrétiens. Voilà. Et Dieu l'a touché par sa grâce. Il est tombé à terre. Et il a été frappé d'aveuglement pendant
trois jours. Oui.
Et ensuite, des écailles lui sont tombées des yeux et il s'est mis à voir quand il a justement accepté sa mission.
Oui.
Voilà. Mais il a dû passer par là. Alors, ne soyons donc pas pessimistes en nous condamnant nous-mêmes ou en condamnant certains autres parce qu'ils vivent dans le péché. Moi, j'aime bien fréquenter les milieux qui sont pas très clairs, qui sont pas très...
Des gens en souffrance, finalement. Hein.
Oui, et puis des gens qui ont une vie dissolue. Les fréquenter. J'aime bien les fréquenter. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont besoin de la grâce de Dieu.
Oui.
Et elles sont réceptives, quelquefois, à la grâce de Dieu.
Ils sont pas des tièdes, en général.
Non. Ils vont soit tout d'un côté, soit tout de l'autre.
Oui.
Alors, fréquentons les gens de mauvaise vie, comme Jésus le faisait. Croyons toujours qu'un recommencement est possible. Un miracle peut arriver, et dans tous les cas, même en faveur d'un cœur endurci. Les exemples bibliques abondent.
Mais oui, on peut d'ailleurs.
Un miracle peut toujours se produire. Pierre avait renié Jésus. Judas l'avait livré. Judas n'a pas cru dans un recommencement.
Oui.
Il a pris une corde et il s'est pendu.
Il était dans le désespoir. Il est resté dans
désespoir,
le désespoir.
Mais, ouais. Mais en choisissant sa fin, c'est-à-dire la mort... Le suicide, et puis il disait, c'est plus possible pour moi.
Oui.
Pierre a cru qu'un recommencement était possible. Et il ne s'est pas suicidé. Et pourtant, c'était grave également ce qu'il avait fait, d'autant plus qu'il avait fait ce qu'on appelle des imprécations. Les imprécations, c'est donc, il disait, je ne connais pas cet homme. Et il faisait des imprécations, c'est-à-dire, c'est comme s'il avait dit, je jure sur la tête de ma mère. Que je ne connais pas cet homme, ou sur Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même, je jure. Devant Dieu lui-même, je jure que, etc. C'est ça qu'il a fait.
Alors qu'un peu avant, il avait dit, jamais moi je ne te trahirai.
Je te suivrai jusqu'à la mort, je mourrai avec toi.
Et Jésus l'a prévenu que...
Et Pierre est un violent. Et dans le jardin de Gethsémané, il a une épée. Et il s'en sert.
Oui, oui.
Il a tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, je crois. Chantal, est-ce qu'il voulait vraiment trancher l'oreille? Moi, je pense pas. Je pense qu'il a pris son épée.
Oui, c'est ça.
Il voulait assommer un bon coup d'épée.
Il était violent et c'est tombé.
Il voulait le tuer. Il voulait le tuer, cet homme. Voilà. Donc ça, c'est l'apôtre Pierre. Voilà, l'apôtre Pierre. Et nous pouvons nous reconnaître quelquefois comme lui, dans le péché.
Un tempérament impulsif.
Voilà, et traverser des échecs cuisants. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous rejette. Ce n'est pas pour autant qu'il nous faut nous éloigner de lui. Je dirais même, au contraire, approchons-nous de lui. L'apôtre Pierre dira, nettoyez vos mains, pécheurs. Bon, il faut s'approcher de Jésus en essayant de se purifier à son contact. Et savoir que notre péché ne nous disqualifie pas, le péché des autres non plus. Rien ne peut nous disqualifier. Il y a une seule chose qui peut nous disqualifier, je l'ai dit il y a quelques instants, c'est le fait de ne plus vouloir de Dieu et de ne plus vouloir recommencer avec lui. Et la Bible appelle cela... Le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit.
Le seul qui ne puisse pas pardonner, parce que c'est l'homme qui...
Il ne peut pas être pardonné, puisque la personne ne demande pas pardon.
Bah oui.
C'est dans ce sens-là.
Oui.
Alors, ça, c'est le seul péché où là, il faut faire très attention de ne pas le commettre. Ou si on le commet, si on commence à le commettre, eh bien, avant notre mort, il faut se mettre à genoux et se repentir.
Mmh.
Il est toujours temps de revenir.
Ben on voit, le bon larron, on le voit. Hein.
Mais oui. Est-ce qu'il a été baptisé? Non. Baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, est-ce qu'il a... Non. Est-ce qu'il allait au temple ou à l'église? Non.
Sans doute pas, non, parce que...
Est-ce qu'il écoutait Jésus quand Jésus enseignait? Non.
Il ne faisait pas partie des disciples.
Du tout. Et,
pourtant,
il dit, moi j'ai mérité le sort que j'ai, toi non. Voilà. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors là, j'aimerais parler à ceux et celles de nos amis auditeurs, puis on va en prendre en ligne dans quelques instants.
Voilà, j'invite nos auditeurs d'ailleurs à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Justement, puisque peut-on tout recommencer un jour, hein, des témoignages de, ben voilà, de personnes qui ont vécu des épreuves terribles et qui, ou à un moment, elles ont pensé que vraiment c'était plus possible,
c'était fichu.
Et puis, voilà, elles sont reparties pour une nouvelle, peut-être justement, repartir pour une étape encore plus, où il y a une évolution qui se passe. Hein. Parce que quand on recommence, il y a toujours un... il y a une évolution qui se produit, une maturation en même temps.
On mûrit, c'est
l'épreuve
sûr.
L'épreuve me fait mûrir, oui.
En tout cas, moi je m'adresse maintenant à ceux et celles parmi nous qui sont le plus dans des états, j'allais dire, de néant, quoi. Hein, qui sont le plus dans les ténèbres. Et il y en a qui nous écoutent, il y en a qui se reconnaissent, j'en suis sûr. J'aimerais que vous preniez en pleine figure, et je le dis avec le sourire et avec humour, j'aimerais vraiment que vous écoutiez ceci ce soir, c'est que vous pouvez recommencer. Bien sûr, ça laissera peut-être des traces, ce que vous avez fait en mal. Mais les cicatrices ne nous empêchent pas de vivre.
Hein. Même Jésus ressuscité
avait les cicatrices.
Oui.
Donc, il y a des traces, mais... Ça ne nous empêche pas de continuer. Alors, j'aimerais m'adresser à elle et j'aimerais qu'on puisse faire, Chantal, dès maintenant, un tout petit instant de prière, si c'était
possible.
Oui,
puis on pourra en reprendre un tout à l'heure aussi.
Voilà, moi j'ai vraiment cette forte intuition qu'il faut prier tout de suite, maintenant, pour des personnes que je ne vois pas. Mais je le ressens très fort que, il faut qu'elle demande la grâce de Dieu. Donc, si vous le voulez maintenant, et ça va être court cet instant de prière, si vous le voulez, ceux et celles parmi vous qui vous êtes reconnus dans cette parole de tout à l'heure, eh bien, voulez-vous fermer vos yeux, vous recueillir, celles qui le peuvent se mettre à genoux, hein, devant le buffet, voilà.
En tout cas, c'est devant le Seigneur, hein, même invisible, mais il est là, oui.
Il est là, et... J'aimerais que vous receviez maintenant une vie nouvelle. J'aimerais que vous puissiez demander pardon au Seigneur si vous avez commis de grands péchés. Maintenant, demandez avec simplicité pardon au Seigneur qui vous pardonne en cet instant. Tes péchés sont pardonnés. Reçois cette parole dans ton cœur. Et voudrais-tu maintenant revenir au Seigneur? Lui dire, Seigneur, je t'aime. Je t'ai tourné le dos pendant tant d'années. Mais j'aimerais t'offrir un tout petit peu de mon amour maintenant. Je reviens à toi. Je veux à nouveau faire des expériences avec toi. Je veux que ma vie soit à nouveau changée. Elle l'avait été autrefois, puis j'ai rechuté. Mais je te demande maintenant un second changement dans ma vie, encore plus fort. Alors, chers amis, donc, si vous avez prié cette prière avec moi, sachez que vous êtes exaucés. Dieu vous a vu, Dieu vous a entendu, il a posé sa main sur vous, et dans les semaines qui suivent, allez à l'église. Allez à des réunions, faites un effort, dépoussiérez votre Bible, lisez les évangiles, faites quelque chose, revenez à Jésus-Christ, le Père des Lumières, revenez à lui, et un miracle va se produire. Croyez dans ce miracle. Seigneur, je te remercie parce que tu as béni tous ceux et celles qui maintenant ont fait cette prière. Amen.
Amen. allons nous retrouver dans quelques instants.
Radio Notre-Dame.
Carnatus Est, c'est la messe numéro 13 en si bémol majeur de Haydn. Voilà, après cette prière que vous avez adressée au Seigneur pour tous nos auditeurs, pasteur Philippe Osney, eh bien la réponse, oui, il s'est incarné pour venir nous sauver.
Oui, hein, c'est cela.
Alors prenons la balle au bon.
Ah oui, oui, oui. Et toute l'histoire biblique nous montre justement cet éternel retour de l'homme vers Dieu.
Oui.
Et Dieu qui toujours accueille, toujours accueille. Il pourrait détruire ce monde dès maintenant, là, ce soir, demain. Il pourrait d'un revers demain. On l'a vu, c'était quand? Il y a un an ou deux ans, quand ce volcan là, je ne sais plus où là,
au Japon?
Non, c'était un... Bon, enfin bref.
Ben oui, on voit bien les...
Je vois quel territoire, mais j'ai oublié le nom. Ce volcan s'est réveillé, les cendres ont monté et une partie du monde a été perturbée, les avions ne pouvaient plus voler.
Ah ben oui, oui, il n'y avait plus...
Et il y a des choses comme ça qui sont surprenantes. Ouais. Dieu, d'un seul battement de main, peut stopper la machine.
Oui. Hein? C'est vraiment son amour qui tient le monde. Hein?
C'est son amour. C'est la prière des chrétiens. Ce sont les supplications des chrétiens qui font que le cœur de Dieu est touché et que sa bonté continue. Oui. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit que sa bonté dure à jamais. Hein? Mais cependant, il y aura un temps d'arrêt L'Apocalypse nous le décrit. Hein, voilà, il y aura un temps où Dieu décidera maintenant, c'est assez.
Mais ce qu'il se passera, enfin, justement, ceux qui sont sauvés, ceux qui auront résisté jusqu'au bout, comme dit l'apôtre Paul, eh bien oui, à ce moment-là, il y aura ben, le jugement aura lieu à ce moment-là aussi.
Oui, c'est ça, les chrétiens qui seront en véritable communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, hein, eux ne seront pas inquiétés, ils ne seront pas jugés selon leurs œuvres. Hein, ils seront graciés, et, ils auront déjà reçu la vie éternelle. Les autres seront jugés selon leurs œuvres. Voilà. Mais ça fait réfléchir. Bon, en tout cas, nous sommes toujours en période de grâce, toujours dans une période de miséricorde, et donc tournons-nous, tous ceux qui ont prié là il y a quelques minutes avec nous, ici dans le studio, eh bien, si vous avez prié, recevez pleinement cette bonne nouvelle que vous pouvez recommencer. Hein. Peut-être que, comme je l'ai dit, vous aviez connu Dieu. Peut-être vous avez même vécu des grandes choses avec Dieu. Puis vous vous êtes détourné. Eh bien, le retour est possible. Et donc, surtout, insistez maintenant. Vous avez prié. J'allais dire que vous êtes coincé, si je puis dire. Eh bien, insistez, faites des petits efforts. Les retours, comme ça, c'est toujours difficile.
C'est un combat, hein, la vie chrétienne.
C'est un combat, et surtout quand on revient vers Dieu, après avoir connu Dieu, avoir été proche de lui, puis s'être éloigné, et quand on revient une deuxième fois, c'est encore plus dur. Il y a des combats, l'adversaire s'acharne.
Et il se met en travers.
Il se met en travers. Alors, il faut insister, persister. Et n'hésitez pas à écouter la radio, les émissions chrétiennes, sur Internet, il y a plein de bonnes choses fortifiantes. Lisez la Bible, fréquentez une église et vraiment réalimentez-vous comme quelqu'un qui a jeûné très longtemps, tout doucement, faut qu'il reboive un peu d'eau. Il va pas manger tout de suite de la viande, hein, c'est d'abord du potage, de la soupe, il va se réalimenter tout doucement. Alors faites-le et chassez cette voix qui vous dit tu y arriveras jamais. Chassez-le, ça vient du malin.
Et fréquentez des groupes qui peuvent vous soutenir, vous
c'est
aider.
Ça, voilà. Et après ça sera à nouveau magnifique, hein. Mais la Bible est pleine d'histoires de gens qui se sont détournés, qui sont venus.
On peut peut-être en parler. Hein,
Par exemple, Jonas. Bon, on a parlé d'Adam et Ève tout à l'heure. Bon, Jonas qui refuse d'aller prêcher la repentance à Ninive. Bon, et puis parce qu'il a des raisons personnelles. Bon,
c'est assez cocasse d'ailleurs sa façon de.
Oui, on voit que Dieu va s'occuper de Jonas et malgré lui le remettre sur le bon chemin. C'est quand même très beau.
Il a quand même eu peur, hein. Il a dû trembler quand même le ventre de la baleine. Ça devait pas être
oui, puis quand il a dit jetez-moi par-dessus bord, il ne savait pas qu'il y aurait un gros poisson, qu'il l'accueillerait.
Hein. Il a cru que c'était fini pour lui.
C'était un suicide. Pour moi, c'était un suicide. Jonas a voulu se suicider. Il se disait j'ai commis un péché tellement grave que tout le monde va perdre la vie sur le bateau. Donc vaut mieux que moi je la perde.
Hein, c'est moi qui suis fautif.
Ouais. Balancez-moi par-dessus bord. C'était un suicide. On était en plein océan.
Oui, mais est-ce que c'était un suicide? Il voulait que la vie des autres soit sauve.
Enfin. Oui, ouais. mais lui, il savait qu'il allait perdre sa vie, sauf si Dieu faisait quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Mais c'était une extrémiste. Hein. Ouais. C'était une extrémiste. Bon, alors on a le roi David qui commet un adultère d'abord. Et puis, pour aller plus loin, il va faire commettre un meurtre.
Oui, hein. Uri, le soldat.
Voilà, il va faire tuer la femme.
Le mari.
Le mari.
Non, parce que la femme, il la garde pour lui. Hein.
Oui, il la garde pour lui. Alors, il fait tuer donc son mari en plein combat. Et c'est vrai qu'il y aura des conséquences sur lui. Mais il va conserver la royauté.
Oui.
Il va la conserver. Et Dieu va continuer à bénir cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il était sincère et qu'il a reconnu son péché. Voilà, deux raisons. C'était un homme selon le cœur de Dieu, premier point. un homme qui aimait énormément Dieu. Et deuxièmement, c'est un homme qui, immédiatement, lorsque le prophète Nathan va arriver et lui dire « Mais tu es cet homme qui a péché », il va tout de suite reconnaître. Il ne va pas discutailler et dire « Oui, c'est vrai, j'ai péché ».
Il s'est rendu compte, oui, que vraiment...
Voilà. Et il va bénéficier de la grâce de Dieu. Et
Dieu va le bénir, parce qu'après, oui, il y aura Salomon qui va lui lire
c'est
lettre
ça,
de
oui,
cette union.
Et Dieu va, voilà, va permettre un recommencement. Mmh. On a parlé de l'apôtre Pierre, hein, qui a renié Jésus trois fois. Oui, etc. Oui. Bon, ça, on va pas le redire, on l'a dit. Judas, hein, mais Judas, lui, on sait comment ça va finir. Lui, il va pas aller jusqu'au bout. Il va pas tout recommencer. Je dirais même qu'il va tout finir. Oui. Bon, il y a Jésus quand même qui perd la vie. C'est pas n'importe quoi. Il perd la vie sur la croix. Pas facile cet événement. Pas facile. Et il dit ceci, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Voilà. Et le recommencement, c'est Dieu son Père qui va le réinsuffler en Jésus.
Jésus a tenu, justement, pour nous.
Jusqu'au
pour
bout.
Faire le passage, pour faire ce passage.
Oui. Il a tenu jusqu'au bout. Il aurait pu descendre de la croix. D'ailleurs, les scribes et les pharisiens et les sacrificateurs lui disaient « Mais descends donc de ta croix, si Dieu t'aime. Hein, descends de ta croix. Si Dieu t'aime, il ne va pas vouloir que tu souffres comme ça. » Et Jésus reste sur la croix, de même qu'il restera à Gethsémané. Il ne prendra pas la fuite. Il va même dans le lieu où il va être livré, hein, volontairement. Donc il va au-devant de l'épreuve. Hein. Alors, tout ça fait...
Librement, hein, il le fait.
Librement, oui. Librement. Et il y aura un recommencement, ben voilà, Jésus va ressusciter, va réapparaître à ses disciples, il va rester un certain nombre de jours, et puis ensuite il y a l'ascension, et il monte à la droite du Père. Voilà, il reprend sa place initiale.
Et c'est là où on voit comment Dieu agit, là où on voit Dieu à l'œuvre, et c'est cette bonne nouvelle qui fait que... Nous, si on tient bon aussi,
ben, on va bénéficier
en lui. On, voilà,
on va bénéficier de cette même grâce, du recommencement. Hein. On a parlé de Saul de Tarse, hein, qui a fait tuer les chrétiens. Bon, ben, il a été gracié, mais il a dû se planquer pendant un temps.
Parce oui, c'est ça. Et puis alors, il y a eu aussi du désert pour lui, le désert d'Arabie pendant trois ans, quoi.
Hein, ah oui, c'est ça.
Il y a aussi un passage par le désert. Hein.
Un passage par le désert. Ouais. Et là, c'était un petit peu obligé parce que il ne pouvait pas témoigner tout de suite.
Bah, il fallait une formation et
oui,
une purification,
et puis les
enfin, tout un travail.
Oui, et puis les chrétiens ne l'auraient pas reçu.
Ah ben non.
En se disant, oui, ça fait quelques jours qu'il semble avoir changé, mais...
D'ailleurs, Anani n'était pas tellement d'accord, connais...
Il hésitait, disait, bah oui, mais voilà, cet homme est un terroriste dangereux. Hein. Eh bien, voilà, il y a eu une formation, donc il a dû quand même s'éloigner pour se former, et puis pour se protéger peut-être aussi d'éventuelles hostilités du peuple de Dieu, et puis il est revenu tout frais.
Puis après, il y a eu l'accueil des disciples, enfin des apôtres.
Oui.
Hein,
oui.
Qui, il ne devait pas être. On se met à sa place quand il a fait connaissance avec les apôtres.
Ça n'a pas été facile tout ça.
À vivre,
ça
oui,
pas
sûrement.
Été facile. Hein. Mais ce sont tous des hommes qui ont accepté un recommencement.
Oui.
Ils ont tous accepté, y compris l'apôtre Pierre, qui était vraiment de l'équipe des disciples. Hein.
Et pourtant tous, ils étaient dans une impasse, on peut dire. Hein.
Ah mais bien sûr, soit par leur propre péché, hein, souvent par leur propre péché, soit on peut être dans une impasse à cause du péché des autres, à cause d'événements qu'on n'a pas voulu. Et c'est là où il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder.
Il faut tenir dedans.
Il faut tenir, parce que l'amour de Dieu, c'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on voit ou qu'on ressent d'abord, puis c'est vrai parce qu'on l'a vu et ressenti. C'est un fait. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Mais c'est dans ces moments-là où on est en difficulté que l'adversaire essaie de vous plaquer à terre pour que vous ne vous releviez pas.
C'est
la tentation.
Il insuffle le mensonge.
Bah oui.
Hein, tu n'y arriveras pas. Tu connais déjà Dieu. Tu l'as trahi. Donne-toi la mort maintenant. tu pourras plus revenir en arrière. C'est faux, bibliquement c'est faux. Alors donc, moi j'exhorte encore tous nos amis qui nous écoutent et que nous aimons, et à qui nous souhaitons encore une bonne année, puisque vous venez peut-être de prendre l'émission en cours de route, nous vous exhortons à ne jamais croire que c'est fichu.
Ne jamais baisser les bras.
Ne jamais baisser la garde, ne jamais baisser les bras, même si la situation est contraire. Et on parlera peut-être tout à l'heure de la réconciliation dans les familles. Il y a des gens qui ne se parlent plus.
Et depuis longtemps.
10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, et on reste comme ça. On ne se parle plus. Alors, on n'est pas obligé non plus de s'aimer très fort s'il y a des incompatibilités de caractère. Mais de temps en temps, une petite carte de vœux ou un petit contact, c'est quand même bien.
Voilà, montrer qu'on n'est pas... il suffit de peu de choses, mais encore faut-il...
Le vouloir.
Le vouloir.
Il faut le vouloir.
Le vouloir et oser et passer au-delà de nos fins de réticence.
C'est vrai, oui. Et c'est un choix.
C'est un choix.
Qui n'est pas facile à faire, mais c'est un choix porteur et qui va bénir autour de nous.
Dieu ne nous dit-il pas, aimez vos ennemis. Donc, ceux qu'on peut considérer, qui sont vraiment hostiles, une hostilité par rapport à nous.
Oui, rien n'est irrémédiable, rien n'est fichu, sauf si nous le voulons bien. Hein. Le pire n'est jamais le pire du pire. Il y a toujours un petit coin de ciel bleu quelque part. Ça, je l'ai souvent dit pendant mes émissions. C'est les mêmes phrases, mais j'y crois. Ouais. Il y a toujours un petit coin de ciel bleu quelque part. Et vous qui avez pris l'avion, amis auditeurs, auditrices, vous savez très bien que au sol, la météo peut être exécrable. Et puis l'avion s'élève, il décolle. Il monte. Il passe par-dessus les nuages. Et qu'est-ce qu'on voit ? Le ciel bleu et le soleil. Ça, vous l'avez vu automatiquement, ça.
Voilà. Donc voilà, c'est ça la réalité. C'est que c'est derrière les nuages, il y a le soleil et le ciel.
On dit souvent que c'est la nuit qu'il faut croire au jour. C'est la nuit qu'il faut croire au jour.
Et on voit bien dans le Noël, que nous fêtons vraiment dans le point le plus obscur, le point le plus bas, mais c'est aussi le moment c'est là où on peut croire à la lumière qui se lève, et le Christ est cette lumière dans les ténèbres.
Ce nouvel espoir, et ce qui est regrettable, c'est que les médias maintenant parlent de moins en moins du vrai sens de Noël. On parle des cadeaux, on parle de la joie de la famille, mais bien souvent on ne prononce plus le nom de Jésus-Christ.
Et il paraît que maintenant, dans certains lieux, on ne parle même plus du le marché de Noël.
Oui.
On parle de je ne sais plus, des parfums d'hiver ou je ne sais quoi.
Oui, puis le mot Noël, certains voudraient le supprimer. Il y a des membres du gouvernement qui se penchent là-dessus, qui vont essayer de changer le calendrier. Alors, Noël, Pâques, Pentecôte, du balai. Et il y aurait d'autres noms qui seraient donnés.
Alors, nous vous invitons à nous rejoindre... au 01 56 56 44 00, ne baissons pas les bras. Peut-on tout recommencer un jour ? Oui, nous attendons vos appels, vos témoignages. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
Et con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Pour bien commencer l'année, concert de l'ensemble Jubiléo le jeudi 9 janvier 2014 à 20h30. Michael Lonsdale et Brigitte Fossé se répondent dans un programme exceptionnel mêlant l'Orient et l'Occident. Le Cantique des Cantiques, le Salve Regina de Haydn et le Magnificat de Vivaldi. C'est jeudi 9 janvier à l'église Saint-François de Sales, 17 rue Ampère, dans le 17e à Paris. Entrée 20€ et 15€ pour les moins de 15 ans. Réservation conseillée sur le site www.jubileo.fr ou à la procure Brémontier.
minutes dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, eh bien, avec le pasteur Philippe Osney, nous évoquons ce thème, bon, pour un début d'année, hein, on peut se poser cette question. Peut-on tout recommencer un jour? Justement, si on est au plus bas, que l'on est tenté de désespérer, de baisser les bras, eh bien, c'est tonique de se poser la question, parce que oui, on peut toujours tout recommencer.
Oui, oui, et dans cette expression que nous avons choisie, il y a recommencer. Ça veut dire qu'un jour, on avait commencé.
Eh bien oui.
Et puis, on n'a plus voulu poursuivre.
Voilà, ouais.
Et peut-on recommencer, c'est-à-dire refaire comme avant, quoi. Hein.
Bien sûr.
Retrouver l'état initial.
Alors justement, il y a Israël qui nous pose une très bonne question. Peut-on recommencer toujours, donc n'y a-t-il pas toujours des séquelles du passé ?
Souvent, ça dépend ce qu'on a fait.
Oui.
Ça dépend ce qu'on a fait, ça dépend quel genre de péché on a pratiqué pendant notre éloignement. Voilà, chaque cas est différent, mais il peut y avoir des séquelles. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les séquelles ne sont pas signes, ne sont pas la preuve qu'il ne faut pas recommencer. Quelqu'un qui perd une jambe va passer par une rééducation et puis on va lui faire une jambe artificielle. Il va devoir apprendre à marcher avec cette jambe. Il va peut-être reconduire sa voiture. Faudra du temps.
Mmh.
Faudra du temps. On
une
en a parlé.
Ouais.
On en a parlé en début d'émission. Hein, du temps.
Oui.
Il faudra du temps. Alors les séquelles, ça peut être ça également. C'est beaucoup de temps qu'il faut passer pour reconstruire quelque chose, soit sa santé, soit on a pu faire beaucoup de mal aussi chez ses enfants, dans la famille, etc., etc. Par contre, il y a des événements sans retour. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui était ivre au volant et puis il était tellement ivre qu'il a foncé dans la voiture qui venait en face et puis il a tué quelqu'un. Bon ben.
Et la personne qui est.
Pour lui, oui. Alors pour lui, il peut y avoir un recommencement, mais cette personne qui est décédée, il y a un point de non-retour. Je veux dire, elle est, voilà, on lui a supprimé la vie. Alors ça peut représenter une séquelle indélébile. Hein. On a ôté la vie de quelqu'un. Il y a un métier où il y a plus de suicides que dans d'autres. C'est le chez les anesthésistes.
Ah oui.
Ils sont pas forcément numéro un au niveau des suicides, mais pour certains anesthésistes, donc qui ont bien donné les produits nécessaires à l'anesthésie, à un enfant par exemple, un enfant de 6 ans qui va être opéré. Et puis l'enfant décède en cours de route, certains ne supportent pas. Et il y a des suicides, je le sais, parce que ce sont eux qui me l'ont dit. Il y a des suicides.
Des culpabilités.
Il y a des suicides, ouais. Il y a des policiers aussi qui se suicident, des surveillants de prison, je veux dire, il y a des gens qui font un métier à risque et qui ne supportent plus quelque chose et qui se suicident, il y a des jeunes qui se suicident.
Voilà, Guillaume, des agriculteurs.
Des agriculteurs, mais oui, même des femmes d'agriculteurs. Moi, j'ai habité en Mayenne, mais le nombre de femmes qui ont été retrouvées dans des puits, elles se jetaient, oui, dans un puits rempli d'eau, et sont mortes noyées dans le puits. Le nombre de suicides qu'il y a eu comme ça, c'est impressionnant, en milieu rural.
Mmh. Hein.
Voilà, alors le suicide, évidemment, quand une personne se suicide réellement, c'est-à-dire meurt, quoi. Hein. Bon, ben là, voilà, la question.
Alors là, c'est pour ceux qui restent, il y a une culpabilité toujours, et c'est là où il faut recommencer, oui. Ne pas désespérer aussi à son tour.
Moi, je crois qu'il faut travailler cela avec quelqu'un.
Ah oui.
Quand il y a eu des événements comme ça, où on se pardonne pas, où on se dit, mais j'aurais dû le voir. Par exemple, on a un enfant qui se suicide, hein, voilà. On se dit, mince, j'ai pas vu. Hein? Pourquoi j'ai pas vu? Ça peut être un drame qui va durer 5 ans, 10 ans, on peut devenir dépressif et tout. Alors, il faut un accompagnateur, là. Mmh. Il faut pas rester seul. S'il y en a parmi ceux et celles qui nous écoutent ce soir, qui ont vécu cela, laissez-vous accompagner. Trouvez un bon psy. Et puis, là, il faut parler et travailler les choses. Mmh. Et en travaillant ces choses, on va beaucoup mieux. On ne fait pas revenir les événements ratés ou les personnes qui sont mortes. Mais en tout cas, on fait notre deuil et surtout on arrive à se pardonner, à en tirer des leçons. Hein. Et c'est bien connu, des fondateurs d'associations sont souvent des personnes qui ont connu de gros problèmes d'échecs dans leur vie personnelle.
Et après, ils accompagnent par l'expérience qu'ils ont.
Voilà, à cause de leur expérience. Puis c'est peut-être une manière aussi de se racheter. Pourquoi pas, hein. Mmh. Voilà, j'ai raté. À cause de moi, il y a eu pas mal de choses néfastes. Et ben, je vais me consacrer pendant des années à aider des gens. Ça peut être bénéfique.
Mmh. Oui. Thérapeutique.
Oui, c'est une thérapeutique. Ça s'appelle une sublimation. Hein.
Sublimation. Une transformation.
On transforme. Ça fait du bien quelque part. Hein. En tout cas, on peut toujours recommencer. Bon, certains nous diront, mais on ne peut plus changer certaines choses malgré ce recommencement. Alors, c'est vrai. Mais c'est là où il faut du courage et être responsable, se sentir responsable, se dire oui, à cause de moi, il y a ça et ça, et qui ne pourra jamais être changé. Et il faut de l'humilité et s'empêcher de vivre. On peut s'empêcher de vivre. Mmh. On peut se condamner à mort soi-même, à une mort lente.
Bien sûr.
Hein, parce qu'on ne se pardonne pas, parce qu'on se dit non, trop c'est trop, j'ai trop fait le mal. Ben oui, mais Jésus est venu aussi pour cela. Donc il y a un jour, il faut arriver à se pardonner. Et c'est avec souvent en étant accompagné qu'on réussit à le faire.
Bien
en tout cas, moi j'insiste beaucoup sur l'accompagnement. Dans des cas très difficiles, quand il y a des séquelles importantes, comme demandait
Israël, oui.
Quand il y a des séquelles importantes, on ne peut pas y arriver seul.
Oui.
Il faut verbaliser, il faut le dire. Hein, moi, je pense aussi aux criminels qui sortent de prison, qui ont purgé leur peine. Ah oui, mais c'est lourd. Elles savent qu'elles ont tué quelqu'un. Hein, je pense aussi à ce chanteur, c'est Noir Désir. Bertrand Cantat. Hein. Bon, j'ai vu à nouveau, il recommence à chanter quelques années après sa sortie. Mais ça doit pas être facile pour lui. Ça doit pas être facile. Bon, on pense d'abord à... Bien sûr,
à la
famille,
ah oui.
Hein, bien sûr, en tout premier. Mais cet homme, il a purgé sa peine, il a été jugé, il a payé le prix. Et j'étais content l'autre jour de le voir continuer à chanter. J'étais content. Je crois que Noir Désir ne continue pas, il me semble.
Non, je crois pas.
Hein, ça continue pas. Mais par contre, il continue à chanter lui. Et j'ai eu plaisir à le voir chanter, mais on sent cette tristesse. J'ai vu un clip là où il est assis sur un tronc d'arbre ou je sais pas quoi, puis il chante avec sa guitare et on sent une tristesse. Mais c'est très beau, c'est poétique et moi je trouve que
il y a une maturité qui forcément.
Oui,
hein,
et même quelqu'un qui a tué, mais qui a reconnu et qui ne le fera plus, a droit à un recommencement. Il a été puni, il a purgé sa peine, on va pas lui donner une double peine, hein, c'est-à-dire maintenant tais-toi et va bouffer la nourriture des chiens. Non, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de perpétuels récidivistes. Et quand on montre du doigt quelqu'un qui a péché, on a quatre doigts.
On n'aide pas à se relever.
Mais non, et puis on a quatre doigts qui se dirigent vers nous. Hein, on montre du doigt quelqu'un. Ah oui, mais nous, et nous-mêmes, on n'a peut-être pas tué, mais on a peut-être fait autre chose. Hein, alors, faudrait d'abord s'attribuer la même punition à soi-même. Hein. Or, se tuer soi-même parce qu'on a fait quelque chose de mal, je crois pas que c'est la solution.
Non. En tout cas, c'est pas ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. Il le montre dans la Bible. Hein. Il relève l'homme.
Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est un message d'espoir. D'ailleurs, on parle de la bonne nouvelle. Oui. Hein, la bonne nouvelle. J'aime beaucoup Jésus qui de qui il était entouré au niveau des femmes, de prostituées, de femmes de mauvaise vie. Hein. Est-ce qu'il commençait à leur faire sans arrêt des reproches, à les maltraiter? Non, non, non. Il se laissait servir par elles. Et il avait compassion du pêcheur, de la pêcheresse, qui reconnaissent ses torts. Hein. Il avait compassion. Il faut jamais juger les autres. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous? Nous n'avons pas le droit.
C'est ce qu'a dit le pape François aussi.
Oui, hein. Nous n'avons pas le droit. Il y a un seul qui a le pouvoir de juger, c'est Dieu le Père. Même pas Jésus. Hein. C'est Dieu le Père. Alors donc, si tu juges ton frère... souhaitons que ça soit passager ce que tu fais là. Et puis, mets en veilleuse, essaie d'avaler la pilule, et puis de pardonner, ou du moins de donner à Dieu, parce que quelquefois c'est...
Mais donner-le, voilà, demander à
voilà,
Dieu de...
On va donner pardonner. Le dossier à Dieu, en
voilà,
quelque sorte.
Donne ça, oui.
On va se séparer de cette affaire.
Il s'en occupe, que Dieu s'en occupe.
Voilà, il est juste juge, et il va s'en occuper. Il ne faut pas se venger soi-même. Et pas remâcher des choses pendant 10 ans, 20 ans contre les gens, c'est...
Parce qu'on on s'empoisonne et on empoisonne la vie de tout et l'atmosphère. Et...
Complètement. Enfin, ce sont des choses pas faciles, celles dont nous parlons ce soir. Oui. C'est délicat.
Merci, pasteur Philippe Osnet. Donc, peut-on tout recommencer un jour? C'est cette question que nous posons ce soir avec le pasteur Philippe Osnet et avec vous au téléphone. Et tout de suite, c'est avec Christelle. Christelle, bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez?
Bonsoir,
oui,
Christelle,
très bien.
Bonsoir, je vous souhaite d'abord une bonne et sainte année.
C'est gentil.
Merci,
et
à vous aussi.
Je suis bien contente d'entendre le pasteur Osnet. Je voudrais bien le rencontrer et prier, qu'il prie avec moi, parce que moi, je vis... Je suis contente d'entendre cette émission-là, parce que là, aujourd'hui, j'en ai ras le bol. Hein. J'en ai vraiment marre de marre. Je suis. Vous parliez d'impasse à cause du péché des autres. Et ben moi, j'ai. Je pense comme Thérèse d'Avila, Seigneur, comment tu traites tes amis. Parce que j'ai épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve. Il y a un psaume qui dit ça, épreuve sur épreuve pour le juste, mais Dieu, tu le relèves, ou je sais plus. Je sais pas si je suis juste, mais en tout cas, ce que j'endure, c'est de la folie furieuse, quoi. Je veux dire, et dans tous les domaines de ma vie. Tout. Et ça vient de la haine d'une mère. Voilà. Et il y a un prêtre qui a vu tout ce que j'endure et l'évêque de Paris lui interdit de prier pour moi. Au lieu de le nommer exorciste, parce que c'est vraiment un truc très lourd, quoi. Hein. Et ben j'en ai marre. Voilà. Et je me dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me... Enfin, c'est fou, quoi. À chaque fois que j'arrive... Enfin, j'ai eu accident, perdu mon cabinet, les assurances qui n'indemnisent pas, ma mère qui me souhaite de me suicider, qu'on est débarrassé de moi avec cet accident, qui m'a un jour dit qu'elle comprenait pas pour comment j'étais pas encore morte avec tout ce qu'elle faisait contre moi. Donc, c'est malheureux. Hein. Je prie beaucoup pour elle, mais j'en ai ras le bol, quoi. Je vois pas ma famille depuis des années. Elle a fait le vide autour de moi. Même, enfin, c'est. Je vous raconte pas tout. Voilà, parce que bon, bref. Mais c'est affolant, quoi. À chaque fois que j'ai même des problèmes de santé, je peux plus marcher suite aux séquelles de cet accident. J'ai même la trouille de me faire opérer. Enfin bref, c'est complètement dingue. Mm. Et là, Seigneur, j'en ai ras le bol, quoi. Voilà. Mm. Alors, peut-on tout recommencer un jour? Ben, je l'espère, mais là, je voudrais bien que le Seigneur m'emmène là-haut, là. C'est terminé, bye bye cette terre, j'en ai marre. C'est beau, c'est beau la vie, mais moi, j'ai traversé la vie dans les... On dit comme le vous savez, Silouane qui dit, le père du désert qui dit, tiens-toi en enfer et garde l'espérance. Mmh. Eh ben, il y a des moments, moi, je veux dire, je tombe dans le désespoir, la révolte, oui, tous ces gros péchés-là. Voilà. Ras le bol. Voilà. Et je pense que les protestants sont plus fort avec l'Esprit Saint, pour vraiment sortir les situations. Enfin, je veux dire, parce que c'est dingue, là, c'est dingue. Voilà, vraiment, mais je sais pas comment je suis encore debout, quoi.
Oui, vous faites bien de vous exprimer comme ça, vous avez le droit de parler comme vous le faites, parce que vous le vivez, c'est la vérité. c'est votre vérité à vous, et vous avez le droit d'exprimer votre révolte, et Dieu vous entend. On retrouve dans les psaumes des prières, hein, de désespoir.
Écrit, oui, de
Verdun. Oui, psaume 142, psaume 140, psaume 109, psaume 102, psaume...
Oui, il y a vraiment...
Oui,
il y a des psalmistes qui ont vécu...
Psaume 59, délivre-moi des œuvres du mal, enfin, ras-le-bol, quoi. Et alors, je vais vous dire, en plus, j'ai des amis, c'est Judas, quoi. Voilà, carrément. Mais je vais pas rentrer dans les détails, mais au secours, quoi.
Oui.
De ceux qui devraient... Enfin, je sais pas qui sont les plus proches, et ben non. Hein, c'est... Voilà, j'ai vécu ça. Alors, enfin, je vis encore ça.
Est-ce que vous avez pu trouver une personne qui vous... faut pas forcément que ce soit un prêtre ou un pasteur, d'ailleurs. Est-ce que vous avez trouvé une personne qui vous écoute, qui vous accompagne, qui vous comprend, qui met des mots sur vos mots? Vous savez, comme on dit, hein, des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Est-ce que vous avez pu trouver une personne comme ça? Parce que ça serait très important pour vous maintenant, là.
Oui, il y a une certaine époque, mais malheureusement, cette personne, c'était un psychanalyste formidable qui est mort, qui était vraiment chouette, quoi. Bon, bref, qui m'a beaucoup soutenu. Bon, mais maintenant, non. Enfin, j'ai une amie de prière, mais qui prie avec moi, et puis qui est pas tout près de moi, donc... j'ai des amis de prière qui souffrent avec moi.
C'est ça. Alors, c'est déjà quelque chose.
Mais du coup, c'est horrible, quoi. Je veux dire, carrément, je veux dire, on peut se s'engueuler tellement c'est énorme.
Oui, et puis la douleur, votre douleur à vous, fait que par moment, vous pouvez, j'allais dire être un peu de mauvaise humeur, ou du moins, un petit peu décourager les autres et sans le vouloir. Et on est tous comme ça, hein, quand on souffre énormément, on est amer et puis qu'on casse un peu les pieds des autres, sans le vouloir. C'est comme ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de prier pour trouver à nouveau quelqu'un. Ça me paraît être la seule unique solution pour vous à l'heure actuelle.
Savez quoi, je peux vous dire quelque chose, que le prêtre là que j'avais vu, il m'avait été recommandé par un prêtre qui me méprisait, qui trouvait que parce que j'ai un métier, une profession libérale, que c'est ma vocation, et puis il disait non, t'as qu'à être balayeuse des rues, Et le Seigneur, il me dit non, enfin, et j'ai un directeur spirituel quand même. Bon, et alors je vois ce prêtre qui me dit il a un don, ce prêtre, voilà. Et quand il a prié pour moi, pour notamment mes histoires financières, il a eu un accident. Voilà. Et après, j'ai su que c'était le démon qui était fâché parce que c'était un saint prêtre. Hein. Et il y a eu un résultat d'ailleurs. Mais maintenant, ça vraiment, c'est un truc que j'accepte pas. Et d'ailleurs, j'espère qu'il écoute, que l'évêque, au lieu de le nommer exorciste, lui interdise de prier pour des gens comme moi. Mais c'est affolant, quoi.
Alors oui, tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Je pense qu'on va éviter dans cette émission de nommer des personnes ou des...
Enfin, oui,
je sais que vous me comprenez.
Oui, je comprends.
Alors, en tout cas, je vous dis, essayez à tout prix de trouver quelqu'un. C'est vrai que la solution d'un psychanalyste, il y a des très bons psychanalystes, hein, qui sont exceptionnels. Mais il me semble qu'il faut que vous parliez, parce que, vous voyez, ne serait-ce que là, dans l'émission, vous nous parlez. Et ça va vous faire beaucoup de bien, d'ailleurs, parce que là, vous êtes écouté. Vous n'avez pas qu'un seul accompagnateur, là. Vous êtes écouté par des centaines de milliers de personnes.
Si les gens entendent, ils peuvent prier pour moi.
Mais ils vont le faire. Ils vont le faire, d'ailleurs.
Incroyable.
Ils vont le faire.
Moi, je suis découragée. Je me dis, mais je pense aux gens qui étaient dans les camps de concentration. Mais comment est-ce qu'ils peuvent garder l'espérance? Moi, mon grand-père, il était résistant. Il a été dans les camps de concentration.
Oui.
Il en a jamais parlé. Et il a réussi à s'évader plusieurs fois. Enfin, il a été repris. Enfin, bon, passons.
Oui, oui, oui.
Mais on n'a jamais pu parler. Il était protestant, lui. Mais je me dis, mais comment, enfin voilà, j'en suis là, je dis, mais je sais que le Seigneur nous laisse libres, mais comment il fait pour pour laisser les méchants à ce point-là, enfin je veux dire, enfin...
On aura une émission à la fin de la semaine là-dessus, écoutez, si vous pouvez l'écouter, on parlera de ça justement en fin de semaine. Et là, voilà. Il y a l'association La Traversée, hein. Oui. Bon, il y aura une émission le 22, je crois, le mercredi 22 janvier. Voilà, si
oui,
vous voulez l'écouter.
Volontiers, j'écouterai.
Voilà, une émission La Traversée qui peut peut-être vous aider. Voilà, c'est une piste pour vous peut-être, j'espère.
Oui. Et j'aimerais bien pouvoir rencontrer le pasteur et prier avec lui.
Alors,
si c'est possible.
Moi, c'est pas facile parce que je n'habite pas Paris du tout, j'habite à 500 km de là. Et j'ai un programme très chargé, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens, mais je peux pas exaucer les personnes.
Mais vous pouvez plus près, on va demander au Seigneur de vous, que vous soyez guidé vers une bonne personne qui vous convient.
Mais là, jusqu'à présent, j'ai eu du courage, mais là, j'en ai marre.
Oui, mais c'est bien que vous puissiez le crier, le dire. Rappelez-moi votre prénom, je vais
Christelle.
On va prier, Christelle. Seigneur, nous te prions ensemble pour Christelle.
Avec un L.
Oui.
Nous te prions, Seigneur, pour Christelle, donc bénis-la maintenant. Toi, tu sais ce dont elle a besoin, tu as entendu, et nous sommes certainement plusieurs centaines maintenant à nous unir dans cette prière pour elle. Nous brisons maintenant ses chaînes.
Amen.
Nous brisons ses chaînes, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Et nous te remercions, Seigneur, vraiment, parce que tu as exaucé cette prière et tu lui donnes aussi de trouver une personne de toute confiance qui puisse l'accompagner. Merci Seigneur. Amen.
Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci. Bonsoir.
Merci Seigneur.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme. Le père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène tous les lundis et mercredis à 16h dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les lundis et mercredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité? Devons-nous craindre le jugement de Dieu? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30 sur Radio Notre-Dame. En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 11h03, sur Radio Notre-Dame.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous avez envie de nous soutenir financièrement parce que vous estimez que les programmes de Radio Notre-Dame sont utiles pour comprendre le monde et défendre la pluralité des médias. N'oubliez pas que l'État vous encourage et vous permet de défalquer 66% de votre don. Ainsi, un don de 150 € vous revient après impôt à 50 € et un don de 60 € vous coûte réellement 20 €. Alors n'hésitez pas à envoyer vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, et sur notre site internet bien sûr.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, en compagnie du pasteur Philippe Osney, nous évoquons ce thème. On voit bien que beaucoup d'auditeurs se posent et parce que leur situation est intenable. Peut-on tout recommencer un jour? Et il y a des situations, on a vu le cri de Christelle. Hein,
oui, qui est légitime. On a tout à fait le droit de s'exprimer ainsi, devant Dieu et devant les autres. On a tout à fait le droit.
Bien
Quand
sûr.
Il y a une douleur telle, il faut la crier.
Mais on voit bien les psaumes, ils sont des cris.
Il faut que ça sorte. C'est pour ça qu'un accompagnateur ou une accompagnatrice, qu'on voit par exemple tous les 15 jours, et à qui on peut expliquer tout ça et qui va pointer les vrais problèmes de notre vie, hein, parce qu'il n'y a pas que les événements, il n'y a pas que les autres qui nous causent des problèmes, il y a nous-mêmes qui nous causons des problèmes. Donc oui. C'est important de faire un travail aussi avec quelqu'un.
Pour faire le tri un peu, oui.
Oui, et puis cette révolte, elle peut sortir. Elle peut sortir. Et pourquoi ? Ben pour ne plus revenir. C'est le but.
Hein. Oui, là, sortir, voilà. Hein, vraiment, mais, ne plus l'enfermer en soi.
Voilà, mais c'est légitime de passer par une révolte. Jésus même, je ne pense pas qu'il s'est révolté, mais Père, pourquoi oui. m'as-tu abandonné ?
Oui. Hein ? Puis s'il se peut que cette coupe, voilà
que cette coupe s'éloigne. Non, il était à un point où il a tellement souffert que sa sueur devenait du sang.
Bien.
Et le témoignage de Christelle était important parce que il rejoint certainement aussi beaucoup de personnes qui nous ont écoutés ce soir.
Hein. Tout à fait, oui.
Et attention à ne pas renfermer. C'est cette révolte qu'on a entendue chez Christelle et qui est légitime. Attention, si on la renferme, si justement on ne verbalise pas, ben ça devient une bombe après, qui éclate.
Ça explose, oui.
Ça explose. Et donc il faut verbaliser ce genre de révolte et un accompagnateur est là pour cela. Encore faut-il qu'il soit un bon accompagnateur, hein, ou une bonne accompagnatrice.
Alors on va écouter Étienne qui appelle depuis l'ouest, je pense, de la France. Étienne, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Oui. Bonsoir Étienne.
Je te salue Chantal, je te dis merci, action de grâce, et alors Chantal. Voilà ce que je te dis. Et j'ai un truc à te dire Chantal.
Allez-y, allez-y.
Je suis martyrisé dans mon esprit depuis la guerre du Liban. S'il y a un général de l'armée de terre qui m'entend, tu lui donnes mon numéro de téléphone pour qu'il me rappelle parce qu'il me refuse ma pension de l'armée. Mon petit-fils a été blessé au Liban à la mort de mon copain Edmond Gobo, qui est mort dans mes bras d'un éclat d'obus dans la tête. Tu vois ?
Oui.
Et je le revois, je pense à lui, je le revois pas en rêve parce que je peux plus rêver depuis 11 ans maintenant. Mais avant, je rêvais sans arrêt de lui. Je le voyais mort, avec un éclat d'obus dans la tête.
C'est il y a 11 ans que ça s'est passé ?
Oh, il y a 82.
Oui.
82, donc ça fait. Oui, ça fait, 30, ça fait une trentaine d'années. Oui, 30
ans. 31
ans.
Ans, quoi.
Ouais.
Oui.
Et depuis, depuis
ce temps-là, je vis une psychose. Je vois le diable partout, je vois les Libanais partout, je vois le diable partout et je suis
Un traumatisme terrible.
Et s'il y a un général de l'armée de terre qui m'entend, vous lui donnez mon numéro de téléphone. Parce que l'armée me refuse une pension. Je suis un grand malade. Bon, je me tiens à l'enfer, comme dit Christelle, je ne désespère pas. Et je prie pour les causes les plus désespérées. Donc je vais prier pour Christelle, si Christelle peut me rappeler, je vais prier pour elle, je vais me donner corps et âme pour elle. Ce sera ma mission.
Voilà, mais écoutez Étienne, voilà, il y a la prière dans ces moments-là, vers le Seigneur, et priez les uns pour les autres.
Mais j'ai pas fait le deuil d'Edmond, Chantal.
Oui, oui.
Il y a un bon temps qui est mort aussi, tu sais Chantal.
Mais est-ce qu'il...
Il y a un bon temps qui est mort aussi.
Mais là encore, il serait nécessaire que vous puissiez vous laisser Étienne accompagner par quelqu'un.
Mais oui, personne, je vais parler aux personnes. Je vais jamais parler aux personnes. J'ose pas lui en parler.
Il faut
oser. Je vous ai apporté pour moi, Philippe.
Mais un jour, il faut oser parler et vider son sac.
C'est trop dur à parler. Edmond, on avait fait nos classes ensemble, Philippe. On avait fait nos classes ensemble.
Vous avez fait vos classes ensemble, oui. Oui, oui, on comprend. Il est mort dans vos bras de cette façon violente. Et...
Oui, il a été le but à la tête.
Oh là là.
On avait fait nos classes ensemble. C'était toujours premier. On faisait des concours de nettoyage de voitures, de Jeep. Et il arrivait toujours avant moi. C'était mon maître dans l'armée. C'était mon exemple. C'est mon seul exemple que j'avais de l'armée.
D'accord. Eh bien, je pense que nos amis auditeurs, auditrices, qui sont des priants, vont donc prier pour vous, Étienne. Hein, donc, notez bien ceux qui sont priants.
Oui.
Vous notez son prénom.
Le prénom d'Étienne. Hein, et si vous entendez aussi
ça. Il y a un général qui m'entend de l'armée de terre qui me rappelle. Je vais rappeler. Et si Christelle m'entend, qu'elle me rappelle. Je vais prier pour elle. Parce que je me tiens à l'enfer, je ne désespère pas non plus.
D'accord. Merci pour votre témoignage, Étienne.
Au revoir, Philippe. Au revoir, Chantal.
Bonne soirée. Au revoir.
Étienne, courage, oui. Oui, on voit qu'il y a des situations.
Et oui, là, voilà, il y a donc 31 ans ou 32 ans. Ouais. Donc,
Étienne a vu son copain.
Quoi, oui, comme tout quoi, un événement ancien dans notre vie, qui date de très longtemps, peut toujours nous miner. Ben d'ailleurs, les mines sont encore présentes dans certains pays, des mines qui ont été posées il y a très longtemps, même les obus la guerre qu'on a vécue en France, il y a des obus qui sont retrouvés en permanence. Et quelquefois, on va isoler un quartier pour enlever cet obus et de peur qu'il n'explose. C'est la même chose quand voilà ce qu'a vécu Edmond avec son copain qui est mort dans ses bras. Eh bien, on voit que ça l'a travaillé au point où 30 ans après, il pleure toujours. Hein, et voilà. Là aussi, c'est légitime. C'est légitime. La douleur est légitime. Une révolte est légitime. Quand on n'a pas compris quelque chose ou quand on pense que c'est une injustice, il faut le crier, il faut le dire.
Oui, et ça lui a fait du bien de pouvoir le dire et être entendu.
Mais bien sûr.
Par des personnes qui accueillent cette douleur et qui vont la porter vers le Seigneur.
C'est ça.
Ensemble.
Et je pense qu'Étienne a besoin d'être accompagné par quelqu'un d'expérience.
On peut justement demander aussi au Seigneur de mettre sur sa route, la route
quelqu'un
d'Étienne, une personne.
Quelqu'un qui va l'écouter. Et oui. Parce que Étienne va devoir donc solder ce deuil, faire ce deuil qui n'est pas encore fait.
Oui.
Et on le comprend. Hein, on le comprend. C'est pas encore fait. Donc, voilà, il faudra que ce deuil soit fait. Et pour que Étienne retrouve la paix intérieure totale au sujet de cet événement. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes, les scènes de guerre.
Ben oui.
C'est un chanteur, je crois, qui s'appelle Corneille, il me semble, ou je me trompe. Oui, c'est ça, Corneille. Donc qui a vu l'assassinat de toute sa famille devant lui. On a tranché la gorge à la plupart des membres de sa famille, et lui a pu s'échapper, et il est devenu ce chanteur qu'on connaît.
Au Rwanda, oui, c'est ça, oui.
Oui, alors ça c'est terrible. Bon, mon papa, qui est décédé en 83, a fait les camps, il a fait 3-4 ans de camps de prisonniers en Allemagne. Il me montrait souvent la blessure qu'il avait sur le côté, du moins la cicatrice, d'un coup de baïonnette. Il y a un Allemand qui a voulu le tuer, donc lui enfoncer un coup de baïonnette dans le ventre. Et puis mon père s'est tourné, et après ça, dans la hanche, là où il y a l'os. Aïe. Mais il y avait toujours cette cicatrice. Et mon père, quand on était petit, nous montrait souvent ça. Il nous disait, tu vois, regarde, ça, on a voulu
me tuer.
C'est un Allemand qui a fait ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous a envoyé ensuite en séjour de langue en Allemagne. Et il nous a appris à aimer les Allemands.
C'était la réaction
extraordinaire.
Juste. Oui, extraordinaire.
Extraordinaire. Et ma sœur.
Aimez vos ennemis.
Hein. Ma sœur est devenue prof d'allemand. Et moi, j'ai travaillé en Allemagne également. Alors.
Une façon de se réconcilier.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et mon père était très secret. Il est revenu des camps. Ce sont des gens qui ne parlent plus après.
Ouais. Hein,
ils ont tellement souffert, ils ont appris à refouler leurs émotions. Ils ne parlent plus. Et mon père ne parlait presque pas, hein, parce qu'il a tellement vu la douleur. Hein, et j'ai conservé son carnet de prisonnier. Il a fait un petit carnet où il notait chaque jour, ou du moins le plus souvent possible, il notait ce qu'il vivait. Voilà. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait commencé à fréquenter ma mère.
Elle lui écrivait.
L'avait repéré. Alors, c'est marqué, reçu un colis de... Bon, je cite pas le prénom de ma mère, j'ai pas à le dire à la radio, ni celui de mon père, mais reçu un colis de... Et je sais que c'est...
Voilà.
C'est de ma mère. Et puis ensuite, il est revenu de la guerre, et ils se sont mariés. Mais... les guerres, par exemple, ou les attentats, ceux qui sont dans des trains, il y a eu des déraillements de trains, tout ça. Bon, ce sont des grands traumatisés ensuite.
Bien sûr,
il faut que ces personnes soient accompagnées. Il y a un stress post-traumatique qui arrive. Il faut que ça soit traité. Sinon, il y a refoulement de toutes ces choses.
Et puis, oui.
Et ça donne quoi? Ça donne une bombe qui va exploser peut-être 30 ans après, et c'est pas bon. Mais c'est légitime. Ce qu'on vient d'entendre, là, moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis quand même parce que voilà des personnes qui osent parler de leur douleur.
Oui. Et il y a maintenant des psys qui sont spécialisés dans ces problèmes post-traumatiques.
Oui, c'est vrai. Oui,
parce que ça se soigne d'une façon particulière,
c'est une douleur. Quand il y a par exemple un tueur fou, un élève qui vient armé dans une école et qui va tuer deux professeurs et 15 de ses copains-copines, Le lendemain, il y a un psychologue qui est présent.
Il y a des cellules pendant, de...
Il y a des cellules de... Oui, qui sont là. Oui, oui. Parce que c'est très, très dur. C'est... Ah, oui. Quand on a un accident de voiture, c'est pareil.
Oui,
on a un accident de voiture, on est blessé. Il faut du temps pour se relever.
Bien sûr.
Il faut du temps. Quelqu'un qui a un cancer,
il y a un ébranlement,
qui vit des récidives, qui vit chimio sur chimio. Et puis ensuite, allez, à nouveau, il faut une opération. Parce que les métastases se sont déplacées. C'est très, très difficile. Des cancers de la peau, des... Et là, il faut des réseaux de gens spécialisés pour écouter ces personnes. Donc ne restez pas seul. Si vous êtes dans ce cas, ne refoulez pas. C'est dangereux. Ne restez pas seul et choisissez-vous quelqu'un pour parler. Oui. Même si ça vous coûte le prix d'une consultation. Il vaut mieux que ça vous coûte quelque chose, mais que vous vous en sortiez. Oui, plutôt que l'inverse et vous perdrez tout. Je vous ai coupé la parole.
Non, Chantal. On peut parler peut-être de la réconciliation qui... parce qu'il faut parvenir dans ces cas-là, se réconcilier avec soi-même, c'est parce qu'on est dans des situations où on est en même temps, c'est traumatisant, mais il y a une sorte de dissociation de l'être, des situations et des relations, qu'elles soient avec soi-même, avec les autres. Il y a besoin d'une réconciliation en profondeur.
C'est vrai. Alors, vous parliez, Chantal, de la réconciliation avec soi-même. Quand on a vécu des gros traumatismes, la première tendance, c'est donc de pleurer, bien sûr, et de s'isoler, de se renfermer. Et on peut rester des années comme ça.
Replié. Oui. C'est une sorte de protection, hein.
Oui. C'est un mécanisme de défense. Alors, le danger, justement, c'est cette fragmentation. Vous utilisiez quel mot tout à l'heure? Vous avez utilisé un mot qui évoquait celui-là. Le danger, c'est justement cette séparation de deux personnes. La personne qui...
Ah oui, en soi, une dissociation, je ne sais
oui,
pas.
Oui, c'était une... ça, oui, une dissociation, voilà. La personne qui se dit, ben non, finalement, c'est pas grave, il n'y a rien eu ou il n'y a pas eu grand-chose. Et puis l'autre personne qui dit, oui, c'est infiniment grave, mais j'arriverai jamais à solutionner mon problème. Et c'est celle-là, ensuite, qui rentre dans des dépendances, à l'alcool, à la drogue, au sexe, etc. Et quelqu'un peut très bien nous dire, voilà, il y a deux personnes en moi. Deux personnes en moi. Alors, la réconciliation avec soi-même, c'est quelquefois, justement, avec l'aide d'un accompagnateur ou une accompagnatrice, c'est d'arriver à exprimer toute cette souffrance, tous ces fardeaux, toutes les conséquences des traumatismes, de telle manière que ces deux personnes séparées se rassemblent en une seule et qu'il y ait une réconciliation dans l'être. Hein. Alors, maintenant... Il y a aussi le fait de se réconcilier avec les autres, hein, qui est important. Je pense qu'on va
en parler dans quelques instants. Là, pour l'instant, nous écoutons, et bien, c'est les Fraternités Monastiques de Jérusalem. Ça tombe bien, c'est du Père André Gouze. Voici que je fais toute chose nouvelle. C'est une musique d'André Gouze.
Radio Notre-Dame.
Voici que je fais toute chose nouvelle. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Heureux les invités. Festin de l'agneau, dès maintenant.
Que je fais toutes choses nouvelles, c'est tout à fait, voilà, c'est cette bonne nouvelle, hein, peut-on tout recommencer un jour, avec le Seigneur tout est possible, hein, et avec l'accompagnement d'une personne qui est une médiation, un canal.
Oui, c'est ça, c'est une personne extérieure qui n'a pas vécu notre traumatisme, mais qui est capable de déceler et de détecter les problèmes occasionnés par nos traumatismes quand elle nous écoute. Elles peuvent déceler cela parce qu'elles sont de l'extérieur.
Une distance, il y a la juste distance.
Il y a une distance. C'est ce qui permet de faire un bon travail.
Parce que quand on est collé à la même, ou si on vit soi-même la même épreuve qu'un autre, on peut pas s'aider.
On peut pas aider.
On plonge ensemble.
Oui. Jésus l'a dit, un aveugle ne peut conduire un autre aveugle.
Oui, il faut trouver quelqu'un. Voilà.
Donc ça c'est. C'est important.
Alors, on parlait de la réconciliation avec soi-même, avec les autres aussi, et avec Dieu, hein, parce que aussi, Et on peut parler, là, on finira jamais d'en parler, mais le pardon, la place du pardon.
Je vais peut-être choquer plusieurs, mais je vais dire ceci, nous n'avons pas à pardonner ceux qui ne nous demandent pas pardon. Et je vais choquer, là, en disant ça. Parce que certains diraient, non, il faut pardonner à tout le monde. Non. Nous pardonnons à ceux qui nous demandent pardon. Dieu et Jésus-Christ, donc c'est la Trinité, hein, Père, Fils, Esprit. Donc Jésus pardonne les péchés pour lesquels nous demandons pardon.
Oui.
Et nous n'avons pas à pardonner les personnes qui nous ont pas demander pardon. Par contre, oui. Et ça, c'est important, la suite.
Par contre,
ce qu'il nous faut faire, et qui est encore plus puissant que le pardon dans ce cas-là, et en tout cas aussi libérateur, c'est lâcher prise sur, par exemple, l'affaire qui fait qu'on en veut à quelqu'un, hein. Lâcher prise en donnant ce dossier, on va l'appeler comme un dossier de justice, hein, d'accord ?
Et on le donne.
Le dossier de justice, dans une prière, on va dire, Seigneur, je te remets ce dossier à toi Dieu, qui est le seul juge. Je te remets ce dossier, je m'en sépare, et toi, tu vas en faire ce que tu veux. Alors, il y a un exemple dans les Actes, c'est Étienne qui meurt...
Lapidé.
Il va demander que
Jésus, il remet. Comme Jésus, d'ailleurs. Jésus l'a remis au Père.
Comme Jésus, voilà.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Voilà, alors il va faire pareil.
Jésus a remis le dossier de l'humanité entière au Père.
Et ça va donner le grand apôtre Paul. Ensuite, puisque Paul était parmi les témoins, certainement.
Puisque on dit que les vêtements étaient aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse.
C'est ça, il était témoin. Alors, Étienne était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a réussi à pardonner et à bénir les bourreaux.
Ne leur impute pas ce péché.
Bon, alors, il a réussi à le faire. C'est extraordinaire. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Alors, il y a ce qui s'appelle le lâcher prise. Donc, dans un moment de prière, je peux même prendre quelques feuilles et griffonner quelques mots dessus, hein, en résumant les griefs que j'ai contre une personne. Et puis, dans la prière, je vais dire, Seigneur, allez, je te donne ce dossier à toi pour que tu en fasses ce que tu veux. Ça sera peut-être la miséricorde, ça sera peut-être un jugement.
C'est à toi, je te le remets.
Et donc il faut se séparer, finalement, de ce qui faisait qu'on en voulait à la personne. Alors, dans les cas de viol, par exemple, Hein, c'est ce qu'on va donc conseiller aux personnes violées.
Oui, de remettre. Oui.
Ne disons jamais à une personne qui a été violée, bah alors, bah pardonne à ton agresseur. Voilà, hein, que tu, ça fait 3 ans, maintenant t'aurais dû déjà pardonner. Non, mais attends, non, mais là je rêve. On n'a pas à pardonner quelque chose pour lequel il n'y a pas eu de demande de pardon. Hein. Mais par contre, alors oui, on va exhorter. On va exhorter cette personne à remettre les choses à Dieu.
Et c'est donner, le
Dieu,
qui,
le juge, qui voit, oui. L'avocat aussi, c'est Dieu qui s'en occupe. Et alors on s'en sépare et ensuite on vit dans la paix.
Ben oui.
On vit dans la paix. Alors c'est valable pour tout. J'ai parlé des viols tout à l'heure, c'est valable dans les familles quand il y a eu des coups bas, il y a des histoires d'héritage, il y a de l'argent qui a été plus ou moins détourné par quelqu'un ou des biens. Bah c'est pareil, faut pas rester avec ça et il faut donner ces choses-là à Dieu lui-même. Voilà, tu t'en occupes, tu me fais justice.
Oui, parce que de tout à l'heure, autrement, si on le garde, on s'empoisonne.
Mais bien sûr,
on se détruit.
Mais bien sûr,
donc il faut le remettre.
Mais oui, le non-pardon, déjà, c'est faire quelque chose que Dieu ne fait pas, parce que lui, j'allais dire qu'à l'avance, il a pardonné ceux qui vont lui demander pardon, donc il ne reste pas avec du non-pardon, il ne s'empoisonne pas avec ça.
Ouais. Hein? Alors, Albert nous dit, nous pardonnons à nos ennemis, mais nos ennemis nous pardonnent-ils ?
C'est leur affaire.
C'est leur affaire.
C'est leur affaire. D'ailleurs, une fois qu'on a lâché prise et qu'on a donné le dossier d'une affaire à Dieu,
oui.
Faut plus s'en occuper. Mm. Faut plus s'en occuper. C'est plus notre affaire.
C'est ça, oui.
Voilà. Il faut tourner la page. Et là, c'est pas un refoulement.
C'est libérateur.
Voilà. C'est libérateur. On a fait sortir la chose de nous.
Et si on ne peut pas, parce qu'il y a des adhérences, c'est difficile, ça, il faut le remettre encore, jusqu'à temps qu'on
puisse. Oui,
redonner. Seigneur, je te l'ai donné.
Oui, et peut-être prendre un témoin, hein, une personne avec qui on prie, et prier avec elle, en le refaisant le nombre de fois qu'il faudra.
Oui.
Hein, et pardon Seigneur, j'avais de l'amertume, je souhaitais la mort de cette personne, je l'ai maudite par exemple. Bon, ça faut que ça soit confessé.
Faut que ça sorte, oui.
Les malédictions, hein. Ah, j'aimerais qu'il meure dans un accident, cette espèce de machin là. Bon, ça c'est pas juste.
Bah oui. Hein, alors, faut tout remettre, demander pardon au Seigneur.
Oui, et devant témoin, c'est important aussi. Même s'il faut le faire plusieurs fois, il faut insister.
Est-ce que peut-être on peut à nouveau prier en remettant justement peut-être aussi,
oui.
On a prié déjà un peu tout à l'heure, c'était important, vraiment encore, parce que c'est tellement difficile parfois, on a des situations très lourdes.
Oui, et dans cette prière, moi je conseille aux personnes qui... J'allais dire qu'ils ont une dent contre quelqu'un,
oui.
Et on en a tous, hein, des dents contre les autres. Alors, je vous fais cette proposition, soit vous arrivez à pardonner, parce que la personne vous a demandé pardon, ou vous voyez dans sa vie des signes de repentance, hein, ça aide. Oui. Soit, il n'y a pas ça, et puis vous donnez maintenant à Dieu toute cette affaire. Pour ne plus vous en occuper. Hein, vous lâchez prise.
Oui.
Vous lâchez prise. C'est-à-dire, vous acceptez de perdre. Bah, de perdre quoi ?
La face, peut-être.
Perdre la face, et puis vous acceptez que pour l'instant, justice ne vous soit pas faite. Oui. Pour l'instant.
Pour l'instant, oui.
Mais ça va être rendu plus tard. Mmh. D'accord ? Donc, nous proposons, Chantal et moi-même, à ceux et celles qui sont dans ce cas maintenant, de se recueillir. Et nous allons... ensemble, donner à Jésus toutes nos rancœurs, nos haines, nos déceptions des autres. Il y a eu des coups bas, il y a eu des vols, il y a eu des injustices terribles. Peut-être vous avez perdu votre travail à cause d'un collègue jaloux qui s'est fait nommer à votre place et on vous a licencié. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc Seigneur, ensemble, tous ensemble, parce que nous sommes tous concernés, même nous ici dans le studio, nous voulons te donner les personnes qui nous ont fait mal, qui nous ont maltraités, qui ont été injustes, qui ont été durs, et qui ont tué une partie de nous-mêmes. Seigneur, nous acceptons soit de leur pardonner maintenant, si tel est le cas, soit de te donner ce dossier de justice. Et Jésus, toi qui es notre avocat auprès du Père, c'est écrit dans la Bible, eh bien Jésus prend maintenant tous ces dossiers que nous t'amenons entre tes mains. Tous ces dossiers, il y en a beaucoup. Nous lâchons prise sur ces dossiers, en sachant que toi, tu vas bien t'en occuper et beaucoup mieux que nous, même si ça prendra du temps. Nous refusons de devenir des juges, des vengeurs. Nous te demandons pardon, Seigneur, de l'avoir été quelquefois, de nous avoir fait justice par nous-mêmes. Et maintenant, nous bénissons ces personnes qui nous ont fait mal. Et nous acceptons aussi les événements, peut-être cruels, c'est pas forcément des personnes, ça peut être des événements. Nous acceptons que ça s'est produit et que on n'a rien pu faire. En tout cas, nous te livrons tout cela, Seigneur, tous ensemble pendant cette émission. Et maintenant, délivre les captifs, Seigneur. Et en ton nom, je prends autorité et je brise maintenant les chaînes de méchanceté, de vengeance chez mes amis, frères et sœurs qui ont prié avec nous pendant cette émission. Soyez délivrés maintenant de toutes vos chaînes. Repentez-vous de votre haine, de vos mauvaises pensées. Et maintenant, laissez aller les choses en Christ. Laissez aller. Lâchez prise. Vous vous occupez plus de ça, tant pis, vous y perdez pour l'instant, mais vous gagnerez par la suite, et vous serez sûr que ce sera bien jugé. Merci Seigneur pour cette prière et la grâce qui accompagne chacun d'entre nous maintenant. Amen.
Merci, merci pasteur Philippe Osné pour cette, ce temps très fort que nous avons vécu ce soir.